Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 144e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu. Une sélection d'actu, je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Hello Monsieur Fasquil.
Ça va bien?
Bah écoute, impeccable, super.
Alors, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, donc nos abonnés Patreon pourront écouter ce podcast en avance puisqu'il est disponible depuis le jeudi soir. Je le mettrai en ligne dès que le montage est terminé. Donc voilà, ça va être du voyage un peu temporel pour eux quand on va parler du vendredi, qui n'est pas le vendredi qu'on enregistre le jeudi. Ça va commencer à devenir un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais voilà, on voulait vous faire ce petit cadeau. Pour le reste, je voulais juste signaler que les démons du midi vont être à la bourre. On devrait normalement sortir un épisode, j'espère, d'ici une grosse dizaine de jours. Ils sont en décalage d'un mois, donc on va essayer de voir un peu comment on réorganise tout ça. Et puis normalement, il y aura un nouvel épisode des clairvoyants mi-septembre aussi, c'est la rentrée pour tout le monde. Et puis nous, on va y aller avec le gaming et des news du côté de Nintendo.
Moi, qui me fascine toujours, car Nintendo, ils en ont rien à foutre de la nouveauté, de la haute technologie. Pendant que tout le monde est en train d'affûter ses PlayStation 5 et ses Xbox What 1000, eux, ils arrivent avec un remake des Game & Watch des années 80. Et oh. Oui, il faut être vieux comme moi pour avoir joué à ce truc-là, c'est dire.
Comme moi.
C'est ça, comme nous. Et comme certains auditeurs, comme on le savait, on a tous 12 ans dans notre tête, mais bon, on y était, comme dirait l'autre. Et donc, ils fêtent les 35 ans des Game & Watch avec l'arrivée d'une version... Alors, ils ont été gentils avec nous, ils nous ont parfilé des écrans de l'époque un petit peu pourris, il faut quand même dire ce qui était. La technologie n'était pas très évoluée encore, ok. Vous auriez oublié. Donc, ce sera un écran LCD en full color, mais ils vont vous demander la bagatelle de... allez, on va arrondir pour notre prix français, ça va bien réussir à faire 50€ avec les taxes, voire 60, hein. On n'est pas à l'abri de ça. 60€ pour environ, pardon, ne prenez pas ce chiffre comme parole d'évangile, on verra bien ce que ça donne en traduction française. Pour un jeu et demi, on va dire.
Oui,
allez,
ça fait
deux
beaucoup,
jeux. Ouais. Parce qu'en fait, tu auras Super Mario Bros. À l'intérieur et puis tu vas avoir une version qui s'appelle en fait Super Mario Bros. Lost Level, qui était Super Mario Bros. 2 au Japon. Et puis, il y a un truc que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait Game & Watch Bowl, et qui sera aussi dans la console. Donc, écoutez, j'espère que la nostalgie est forte avec vous, parce que sinon, il n'y a quand même pas un milliard de raisons d'acheter cet objet, qui sera évidemment une édition limitée, histoire de bien motiver les clients potentiels, ou j'ai plutôt envie de dire les Yankees. C'est une private joke, mais voilà, ceux qui connaissent ce terme ne seront pas surpris, parce que là, il faut quand même être vraiment très nostalgique pour aller craquer ce pognon-là. Le design est évidemment repris fidèlement par rapport à celui d'époque. La fibre nostalgique doit être exploitée jusqu'au bout. Et puis on verra ce que ça donne une fois qu'on l'est dans les papates. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour ce prix-là, il n'y a pas le chargeur. Comme d'habitude chez Nintendo, hein, vous n'êtes pas surpris, on a l'habitude maintenant. Mais bon, j'aime bien le rappeler de temps en temps parce que c'est quand même un petit peu pas très gentil de leur part. Voilà, écoute, on attend de voir ce que ça donne le 13 novembre quand tout le monde l'aura dans les papates pour tester la bête.
Et puis on va parler de Crusader Kings 3.
Non, on va pas en parler. Ouais, on va dire que c'est sorti. Parce que Crusader Kings 3, c'est la grosse sortie de la semaine. C'est un gros fat 9 sur Gamekult et pratiquement partout. Hein, je veux dire, tout le monde a adoré ce titre. Et moi, c'est vraiment pas ma cam. Donc, je n'y jouerai jamais.
Pareil.
J'ai jamais kiffé les titres de stratégie, de high stratégie. Alors après, vous y allez de votre définition comme vous voulez. De chez Paradox Interactive. En revanche... j'ai une longue liste de noms de gens qui sont un petit peu comme dans un civilisation quand ils jouent à ce genre de truc, tu vois. Ça lance le jeu à 9h, ça cligne des yeux, il est 4h30 du mat et ils comprennent pas ce qui vient de se passer. Donc oui, moi je suis vraiment pas client, mais si vous aimez gérer des générations de monarques et mettre en place une dynastie et avoir vraiment le top du top dans le genre, eh bien maintenant, ça sera celui-là qu'il faudra acheter. Apparemment, tout le monde est très content. je sais que nous avons des fans sur Geekzone qui en parlent déjà avec amour sur notre Discord depuis qu'il est sorti. J'ai pas vu un test négatif, hein, pour être très honnête, depuis que le jeu est dispo. Donc je voulais vous dire que c'était là, que c'était présent et que nous n'en parlerons jamais vraiment. Et que non, en tout cas, nous ne ferons jamais de test puisque vraiment, 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 moi, c'est un très, très bon somnifère pour moi, ce genre de jeu. Ça ne fonctionne pas du tout, alors que j'adore les civilisations. Il y a plein d'autres trucs que j'aime bien, mais ça, ça passe pas. Voilà. C'est
tout. Allez, on passe du côté des apps avec OnMail.
Ouais, vous vous rappelez, je vous avais petit parlé il n'y a pas très longtemps d'un service mail qui s'appelle Hey, qui cartonne. D'ailleurs, il y a eu quelques papiers là qui viennent de sortir sur genre Hey, 3 mois après, machin, est-ce que c'est toujours l'histoire d'amour? Bon, les gens ont l'air très contents, tant mieux. Et du coup, comme prévu, il y a pas mal de gens qui se sont dit, au lieu de faire des clients email où on gagne pas d'argent sur vos prestataires habituels, genre Gmail, etc., on va essayer de se sortir des nouveaux services qui sont assez proches, on va pas se mentir, de ce que propose Hey. Le but du jeu, c'est de trier votre inbox de manière un petit peu plus intelligente que ce que va faire un Gmail, un Outlook et compagnie par défaut. Alors évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes de mail, donc c'est difficile de faire un test de ce genre de choses. Là, le service est tout récent. Ce sont les mêmes développeurs derrière que les mecs qui ont repris, parce que l'histoire de Soph est un petit peu compliquée, mais Edison Mail, qui est un logiciel mobile, qui a différentes versions, etc., qui n'est pas extrêmement rentable, on va pas se mentir. Ce sont ces gens-là qui se sont dit, on va faire OnMail et on va avec ce produit-là essayer de gagner vraiment des sous. La présentation est assez proche de ce qu'on trouve déjà sur un Hey, par exemple. Alors un petit peu moins coloré, mais on retrouve les icônes des gens qui vous parlent avec des petites photos en fonction des liens qu'il va réussir à faire avec des réseaux sociaux via l'adresse mail, etc., etc. Évidemment, tout ça est un service totalement payant et totalement locké. En revanche, il y a un tiers gratuit, ce qui n'est pas le cas chez Hey. Vous avez tout ça d'expliquer dans le papier de The Verge que j'ai linké, mais en gros, sachez que ça va donc de 0$ à 20$ par mois, et oui. Donc, vous avez intérêt à avoir vraiment besoin de vos mails, et en tout cas, de ne pas être déjà amoureux d'un service comme Fastmail, etc., qui, pour moi, fait largement le taf et offre une facilité de configuration quand même assez large. Donc voilà, je voulais juste dire que c'était dispo, qu'ils avaient déjà évidemment préparé les applications pour iOS, Android et Mac, et Windows peut crever comme d'habitude. Si vous êtes sous Windows en ce moment, j'ai vraiment l'impression que c'est j'espère que vous aimez les web apps, en fait, hein, que vous aimez ouvrir un onglet, parce que pour vous ça sera ça.
Et pour il faudrait qu'on creuse, mais il y a une nouvelle version de IM Client là qui vient de sortir, qui a connu un joli ravalement de façade, donc faudrait que je m'y intéresse un peu plus en profondeur à l'occasion de peut-être faire un papier sur Geekzone là-dessus, mais c'est vrai que sinon le paysage est pas très très reluisant.
Surtout quand t'es sur une application qui est finalement c'est une web app, mais bon, même sur Mac, ils font l'effort de sortir une application packagée. Alors souvent c'est juste un front-end en Electron, il y a rien, c'est pas une vraie app native, tu vois, mais sous Windows les mecs se font même pas chier. Il y a très peu d'apps, moi je pense comme ça de tête, il y aura Telegram, des gestionnaires de tâches comme TickTick, etc., où les mecs vont dire ok, on va te faire une vraie app qui s'intègre dans ton OS et qui fait des trucs, qui font des trucs intéressants. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez rare et c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, en parlant de client mail, je viens de voir qu'il y a un billet de blog de chez Monsieur Spark, enfin des gens qui font Spark, l'excellent client mail déjà disponible sur à peu près partout sauf Windows, encore une fois, qui avance, et en fait ils expliquent toute la tech derrière leur portage de Swift sur justement, enfin Swift UI, différents modules de Swift, l'intégration avec Node.js, etc., qui va faire en sorte d'avoir une base saine pour faire Spark version Windows. Et le truc qui m'a fait vachement plaisir, je déconne, dans ce billet de blog, c'est que l'interface sera faite en Electron. Super. Bon, ça a fait des progrès, hein, donc j'essaye de moins taper dessus, mais si vous espériez du natif hyper propre, c'est mal barré, mais en tout cas c'est toujours en développement et ça arrive, et ça c'est une bonne nouvelle.
Ouais. Et puis on va parler de ton application chouchou pour lire les podcasts sur iOS, Overcast.
Ouais, Overcast qui apparemment prépare dans sa bêta un truc qui va faire râler des gens qu'on déteste, donc on est hyper contents. Des gens qui font du podcast pour gagner de l'argent, quelle idée saugrenue. qui vraiment, ça me dépasse. Mais bon, en vendant de la publicité, hein, parce que gagner de l'argent, oui, d'accord, très bien, c'est cool. Nous aussi, on aime bien le parmesan. Mais en revanche, mettre de la pub dans les podcasts targetés, ciblés, pardon, en français, selon les auditeurs, etc., donc espionner les gens qui vous écoutent de la même manière que Instagram vous follow, Facebook pardon, vous stalk à peu près partout. Bon, ça c'est moyen, et comme ça ne plaît pas du tout à l'éditeur, au développeur pardon, d'Overcast, eh bien dans sa bêta il y aura un truc assez complet qui va vous dire, en fonction de chaque podcast que vous écoutez, il y aura dans la fiche d'info, ça va vous dire tous les trackings qui sont inclus dans votre feed, et ben vous serez pas déçu, puisqu'apparemment il y a déjà des trucs bien bien sales qui se baladent dans notre petit milieu.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais.
Voilà, donc je vous laisse lire le papier de The Verge que j'ai linké, et la bêta pour le moment était disponible, mais pour la version complète, je n'ai pas de date. Notre ami Marco prenant son temps comme d'habitude pour bien polir son application. Voilà, ça sortira quand ça sortira.
Et puis moi, je voulais vous parler de la sortie de la version 8 de Isotope RX. Alors Isotope, c'est quoi ? Isotope, c'est une société américaine qui est spécialisée en fait dans les outils de traitement audio. Et une de leurs suites les plus populaires, c'est la suite RX, qui permet donc en fait à la base de réparer du son, de l'améliorer. C'est un ensemble d'outils en fait qui permet par exemple d'éditer spectralement en fait tes ondes, tes waveforms en fait. Donc tu peux virer des bruits spécifiques dans des gammes de fréquences particulières. Tu peux supprimer les clics, tu peux supprimer de la saturation. Enfin, le soft fait vraiment de la magie. C'est un soft qui est très utilisé dans le milieu professionnel, notamment à Hollywood, en fait, dans tout ce qui est remixing de films, et puis aussi dans le monde de la télé. Moi, j'utilise pour mes podcasts. C'est basé sur du machine learning, de l'intelligence artificielle, donc c'est super efficace. Et parmi les nouveautés de cette version 8, il y a un réducteur de bruit dédié aux guitares. Donc, si tu joues de la guitare, mais que tu grattes encore un peu les cordes maladroitement, eh bien, tu peux le passer dans ce plugin, et par magie, tu vas devenir un virtuose de la guitare. J'exagère un petit peu. Il y a un outil de Spectral Recovery, et ça c'est vraiment pas mal, parce qu'en fait ça permet de recréer des fréquences absentes. Donc si par exemple tu fais une interview avec quelqu'un au téléphone, bah forcément la gamme de fréquences d'un téléphone est très étroite, tu vas pas avoir la même voix que si tu l'avais en face de toi dans un vrai micro. Et bien grâce à cet outil, tu vas pouvoir recréer une partie de ces fréquences qui n'existent pas, et donc avoir un son un petit peu plus chaleureux et plus agréable à l'écoute. Il y a plein de trucs, il y a un réducteur de ce qu'on appelle le wah et le flutter, c'est deux trucs qu'on entend souvent sur des vieilles cassettes audio un peu usées, c'est la musique qui ralentit, qui a des petits effets de flange un peu bizarres. Donc ça va pouvoir te permettre de le réduire aussi. Donc si tu récupères par exemple des vieilles sources audio sur des cassettes, ça va être super pratique. Bref, il y a plein de nouveautés. Je vous link un papier de The Next Web qui parle donc du produit et qui détaille tout ce qu'il y a de nouveau dans cette version 8. Il est en promo pour le lancement à $99 au lieu de $129 pour la version Elements, qui est une version limitée à certains outils, mais qui est déjà bien pratique, surtout si vous faites du podcast. Il y a la version standard à $299 au lieu de $399, et puis la version Ultra Pro, je sais plus comment il l'appelle, la version avancée,
c'est la version
ça,
trop chère.
Voilà, qui était à 999 euros au lieu de 1199 €. Mais ça, c'est plus orienté vers le marché professionnel de la production.
Tu voulais dire 1199?
J'ai dit quoi?
Tu as dit 1100, mais est-ce qu'en fait c'est vachement plus logique, mais que tu es belge aussi?
C'est vrai. Et parfois ça m'échappe.
Exactement.
Tu remarques que j'ai pas dit 99.
C'est vrai, c'est vrai. Et je suis fier de toi. Par contre, je suis hyper déçu de leur soft là, parce qu'à ce prix-là, je vois qu'il n'y a pas de filtre anti-chat.
Alors justement, c'est l'édition spectrale en fait. C'est-à-dire que il faudra que je fasse un jour une vidéo pour montrer comment ça marche, mais c'est assez fascinant. T'as vraiment une vision en fait de ton son qui est pas une vision classique de waveform, mais une vision vraiment avec des ondes de couleur. Et tu vas repérer tout de suite les sons de chat, parce que ça va être une petite tâche à un endroit bien spécifique. D'accord. Et tu peux aller nettoyer ça un peu comme un Photoshop.
D'accord.
C'est assez magique en fait.
Tu veux dire que quand Loki va commenter nos news, on pourra la dégager sans refaire la prise.
Voilà, exactement.
Et bah, c'est pas mal. Ça vaut peut-être les 1000 balles en fait. Je retire ce que j'ai dit.
Allez, on termine les apps avec Twitch Watch Parties.
Alors ça, c'est un truc qui va être rigolo pour rien foutre, mais rien foutre ensemble. C'est un outil qui permet en fait de linker dans Twitch. Donc quand vous êtes streamer, vous pouvez streamer via Twitch vos séries de Prime Video, qui appartient aussi à Amazon. Donc évidemment, tout ça est tellement bien fait. Le but du jeu étant évidemment de faire la promotion des certaines séries de manière déguisé et efficace, mais ça peut évidemment permettre de se mater le dernier truc à la mode avec sa communauté en racontant de la merde, généralement en n'étant pas très concentré sur ce qui se passe. Donc je vous déconseille de regarder des shows un petit peu lourds avec, ça va pas s'y prêter beaucoup. En revanche, le screenshot de The Verge, qui est la news que j'ai linké dans le podcast pour vous parler de tout ça, le meilleur screenshot, la meilleure série pour faire ce genre de truc, c'est The Boys, qui effectivement la saison 2 est dispo depuis pas longtemps là. Donc j'imagine j'imagine que pour commenter les passages un petit peu gore de cette série, ça sera pas mal. Si vous avez personne à la maison et que vous avez envie de dire du mal ou du bien d'une série à plusieurs, ça a l'air très bien foutu. En revanche, il y a pas mal de zones d'ombre sur quelle série va être dispo dans quel pays, puisque évidemment, en fonction de certains accords de diffusion, il y a des trucs qui sont pas chez les mêmes diffuseurs. Le papier fait référence à Picard, qui est dispo chez nous, justement sur Prime Video, et tant mieux, mais qui est chez HBO ou CBS All Access chez eux. CBS All Access, pardon. Désolé, pardon, HBO. et du coup, forcément, les Ricains ne peuvent pas faire du Watch Parties avec ça. Bon, voilà, je trouve que c'est rigolo, et il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. On se trouve des trucs à regarder sur mon channel en mode genre, bon, sur Valorant, ça ne passe pas. Aujourd'hui, nous ne tuons personne. Pour regarder plutôt la série, télé, ouais, ensemble. Tu vois, donc avant, tu te barrais et maintenant, tu pourras faire genre, on va se mater ça. Et il y a un intérêt qui est quand même pas dégueulasse, c'est que si tu programmes le truc avec ta communauté, tu peux tout à fait mater des choses sur les gens qui n'ont pas Prime Vidéo, qui sont peut-être très contents de mater dans Twitch, sachant que la qualité est quand même pas dégueulasse. Voilà, donc à suivre, on verra bien ce que ça donne.
Et ben justement, on va parler de série, plutôt de documentaire, on va passer du côté de la culture avec The Vow. Alors, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire autour d'un culte qui s'appelle Nxium? Ça s'écrit N-X-I-U-M.
Est-ce qu'il n'y avait pas une petite histoire d'esclaves sexuels?
Exactement.
Tu vois, je regarde les news les plus importantes, moi.
C'est alors The Vow, c'est une série documentaire criminelle, ce que les anglo-saxons appellent True Crime, qui est diffusée par HBO depuis le 23 août, et qui parle donc de Nxium, un culte mené par Kit Ranier autour du développement personnel. Hein, donc c'est la porte d'entrée dans ce genre de secte. Hein, on te dit qu'on va t'améliorer, on va faire de toi un meilleur être humain, et qui va engendrer en fait en son sein un sous-groupe baptisé The Vow, ou encore DOS pour Dominus Obsequius Sororium. C'est un sous-groupe qui est composé exclusivement de femmes, c'est une sororité, ils vont se dévouer entièrement au gourou, jusqu'à se faire marquer au fer rouge, en fait, les initiales.
C'est propre.
R. Oui, voilà, c'est assez incroyable. Il va être assisté d'Alison Mack, qui est une nana qui est une actrice, en fait, à la base, dans une série télé qui était Smallville. Elle va recruter d'ailleurs des gens de là-bas qui vont pas rester très longtemps. C'est un culte qui est assez proche d'Hollywood. On y retrouve notamment dans les rangs élevés une certaine Nikki Klein, si tu te souviens, dans Battlestar Galactica. Celle qui jouait la mécano Kali, la petite mécano.
Non!
Si, si.
Oh non!
Et donc, ça a fait un gros scandale, hein, en 2017, quand ça a été révélé dans un article du New York Times. C'est un point de vue super intéressant, parce qu'en fait, il se compose en grande partie d'images d'archives qui ont été tournées par un réalisateur qui était à l'époque dans le culte, qui s'appelle Mark Vincente. Et donc, on a vraiment un regard sur tout ce qui se passait au sein de Nxium depuis le début, en fait. Et il y a que deux épisodes qui ont été diffusés pour le moment, et ça démarre assez lentement. En fait, on passe tout le premier épisode à montrer un peu le point positif. T'as un peu l'impression de regarder un truc promo pour la secte. Et puis, à partir du deuxième épisode, ça commence à partir un petit peu en sucette. Il se passe des trucs un peu chelous et on commence à découvrir de la manipulation à grande échelle. On peut carrément même parler de brainwashing. C'est assez terrifiant à observer. Donc voilà, il y a que deux épisodes pour le moment. Il y en aura 9 au total. Si vous aimez les documentaires true crime, les histoires de secte et tout, je vous recommande vraiment donc The Vow sur HBO et normalement donc sur OCS en France. Et puis on va passer du côté de la tech avec des nouvelles cartes chez Nvidia.
Allez, on attendait ça depuis un petit moment, ça y est, un teasing qui a duré quasiment un mois et demi. C'était long, c'était très long. Donc sur les réseaux sociaux, Nvidia a fait toute l'historique de toutes ces cartes en fait depuis plusieurs semaines. Et à chaque fois avec des trucs comme si ça venait de sortir, si tu veux. Donc c'était rigolo, je fais des guillemets autour de mon micro, mais bon, c'était marrant vite fait. Donc on a pu un peu remonter comme ça pendant quelques semaines le cours de l'histoire pour arriver justement à l'annonce cette semaine des GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Et on avait tous prévu de prendre une petite claque et puis de vendre un rein ou deux parce qu'on se disait, vu le prix des 2080 Ti et compagnie, ça va être un massacre, mais pas du tout. Et c'était la bonne nouvelle. Donc il y a plein d'éléments évidemment qui viennent un petit peu expliquer cette position tarifaire, mais la grosse nouvelle, c'est que Nvidia a mis le paquet sur cette présentation en expliquant, sans prendre de gants, que c'était le plus gros saut générationnel en fait en termes de performance ever. Donc les mecs sont assez confiants dans leurs produits, les graphiques salement bidouillés comme d'habitude, hein, je parle vraiment au niveau des échelles, tu sais, les axes en fait sont un petit peu biaisés comme d'habitude pour faire des écarts encore visuellement plus impressionnants, un peu peu comme les 80% sur France Télévisions qui font plus de 30% visuellement. Tu comprends pas comment ils ont réussi à faire leur coup. Mais c'est un autre débat. Donc bref, ces trucs-là sont assez violents en termes de performance par rapport au 2080. Et du coup, tout le monde s'attendait à des tarifs hallucinants. Et pas du tout. Donc nous, on a attendu toute la présentation pour avoir les prix. Je vais vous les donner tout de suite. La 3070 qui va être l'entrée de gamme, mais qui apparemment sera au niveau des performances d'une 2080 Ti qui coûtait plus de 1000 balles quand elle est sortie, pour vous donner un référentiel, devrait sortir à 519€ au mois d'octobre. C'est vraiment abordable pour le coup, même si tout le monde 519€ dans une carte graphique, oui, on est d'accord, hein, tout le monde n'y va pas. Mais quand vous êtes gamer PC et que vous avez une vieille carte et que c'est le moment d'upgrader, bon bah là c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé d'aller vendre un deuxième rein et après c'est pas pratique les dialyses tout ça. Donc franchement, bonne nouvelle avec 8Go de RAM en plus, donc c'est plutôt pas mal. La 3080 qui va être le modèle un petit peu costaud que les gens, les enthousiastes gamers vont essayer d'acheter et qui sera la première à sortir le 17 septembre, ça va être vendu autour de 719€. C'est pareil, on s'attendait à, je vais pas vous mentir, on s'attendait à un truc entre 1000 et 1200€. Hein, donc c'est encore une fois une bonne nouvelle. Le tout avec 10Go de mémoire, donc je vous ai pas précisé ça, mais la mémoire intégrée dans ce truc-là, ça sera de la GDDR6X à partir de ce modèle-là, qui est une mémoire évidemment encore plus rapide, qui fait le café, etc. Et la 3090, qui est visuellement impressionnante. Enfin, je veux dire, c'est une arme de défense. Hein. Si vous la montez pas dans votre PC, laissez-la à côté de votre porte d'entrée. Vous pouvez tuer n'importe quel agresseur avec. C'est un engin. Enfin, le système de refroidissement est violent. Le truc, ça roule porte à deux mains. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec 24Go de mémoire, toujours de la GDDR6X. Et ça sera à 1550€. Et ça sortira le 24 septembre. Et si vous faites pas de 3D, du Blender, de la vidéo, avec de la compression dans tous les sens, etc., etc., elle n'a évidemment pas grand intérêt, puisque là, on parle de carte graphique qui commence à essayer d'aller chatouiller les 60 FPS en 8K. Donc, on s'en fout, en fait. Alors après, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce sont des cartes relativement abordables qui vont permettre de jouer avec toutes les options à fond sur des écrans en 4K, ou en tout cas, si c'est pas encore du 4K complètement, sur du 2K sans problème, avec vraiment une rapidité assez exceptionnelle. Donc, si vous n'avez pas upgradé sur la génération 2080, enfin 2K, on va dire 2070 super, etc., c'est une bonne nouvelle. Si vous venez d'acheter une de 1000 et quelques, bah, je suis désolé pour vous. Et je vous fais une petite tape sur l'épaule pour vous consoler. Parce que on en a vu passer un paquet sur Twitter qui était en mode gros salage. Tu vois, mais vraiment.
Il va y avoir des bonnes affaires à faire sur le bon coin, je crois.
Mais j'ai upgradé hier! Ben, en fait, les mecs sont en plus, enfin, même pas, parce qu'ils vont vraiment perdre tellement de fric en les revendant qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc, en revanche, les gens qui n'ont pas upgradé depuis les 960, les 1080, etc., ou toutes cette gamme-là, vont évidemment se régaler. Donc, ça va partir comme des petits pains. En revanche, attention, parce que les dates que je viens d'annoncer, très bien, c'est sur le papier, mais il y a pas mal de rumeurs qui disent que la disponibilité de masse risque d'être pour 2021 sur certains modèles, qu'il n'y a pas non plus des stocks de ouf tout partout. Ce sont des rumeurs à prendre avec des grosses pincettes télescopiques. Hein. Pour l'instant, on n'en sait rien, donc on en saura plus quand on sera vraiment sur le lancement. Les performances n'ont pas été validées par des tests externes avec des chiffres vraiment concrets, etc. Mais il y a quand même eu des gens qui ont accès aux cartes avec des reviews qui sont, en tout cas des premières impressions qui sont excellentes. Donc attendez évidemment de voir des tests chez du Impact Hardware et compagnie complète. Nous, si on a accès des cartes, on fera des tests, on vous dira aussi ce qu'on en pense. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour exact. Tous les trucs que vous trouverez sur le net pour l'instant, ce sont juste des trucs qui sont liés à l'annonce, mais il n'y a pas de test indépendant encore disponible. Donc du calme, vous n'êtes pas obligé de dépenser votre argent tout de suite. De toute façon, elles ne sont pas là, donc détendez-vous. Le truc à noter aussi, c'est qu'on s'attendait à avoir du 7 nanomètres fait chez TSMC, qui est vraiment le truc qui est un petit peu l'hégémonie en fait de la finesse de gravure actuellement. AMD bosse chez avec eux, les gens de chez Apple font graver aussi leurs bestioles chez eux très souvent, si je ne dis pas de bêtises. Il est possible que j'en dise une, mais Insultez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Non, finalement, c'est du 8 nanomètres qui est fait chez Samsung, qui est en fait pas du vrai 8 nanomètres, c'est du 8 nanomètres, j'ai oublié la dénomination, mais en fait, a priori, c'est plus presque du 10 que du vrai 8, hein, mais bon, c'est déjà mieux que ce qu'on avait avant, puisqu'on était sur du 14. C'est une technologie, en fait, tout le gain de performance et tout l'impact de cette carte graphique vient du fait que c'est une nouvelle architecture. C'est pas un raffinement d'une architecture qui existait déjà. Et cette architecture, elle s'appelle Ampère, et on en parle, ou en tout cas son nom de code est susurré depuis 2017-2018, mais c'est pas une vraie nouveauté dans le sens où c'était déjà dispo sur des systèmes on-chip Orin par exemple, qui sont dispo pour les voitures autonomes, et puis qu'on a vu débarquer aussi sur un truc qui s'appelle Lassan, qui n'est pas un GPU mais un accélérateur pour serveur. Donc ils en sont pas à leur coup d'essai. Enfin, c'est une archi qui chez Nvidia a été vraiment bichonnée pour plein de cas d'application et pour faire aussi des économies d'échelle, et c'est peut-être aussi pour ça que les tarifs sont aussi intéressants. Et puis, bah, comme on ne sait toujours pas ce que va donner la nouvelle génération de cartes AMD, et que, à mon avis, Nvidia le sait, ils ont peut-être aussi prévu de couper l'herbe sous le pied et de AMD et de Intel, qui est censé sortir. C'est l'Arlésienne, hein, les cartes graphiques Intel, mais qui est censé enfin avoir un truc dispo l'année prochaine, qui devrait être pas complètement ridicule. Donc, se positionner sur ces tarifs et maintenant, c'est aussi une manière de mettre un coup de savate à tout le monde, et puis potentiellement aussi de calmer les ardeurs des gens qui voulaient absolument acheter des nouvelles consoles en se disant oui mais le PC ça va passer derrière les consoles et tout. C'est jamais le cas les mecs, hein. Enfin, je veux dire, à part quand la PlayStation 1 est sortie, c'est rarement le cas qu'on prenne du retard, en tout cas très longtemps. Et là, bah, du coup, avec ce qu'ils ont annoncé, c'est assez violent. On en reparlera beaucoup plus avec plus de tests et plus d'infos dans le podcast dès que les tests, les vrais, seront dispo, ou si j'arrive à mettre la main sur la carte. Le truc à savoir, c'est qu'effectivement, comme le ray tracing est au cœur et est encore amélioré sur cette architecture, il y a plein de jeux qui passent au ray tracing. Je vous ai linké plein de papier dans le billet qui accompagne le podcast, en particulier chez Impact Hardware, qui a déjà détaillé pas mal de choses. Et du coup, vous allez voir que même Fortnite se met au ray tracing, parce qu'évidemment, on en avait super besoin dans Fortnite. Mais
il y a déjà Minecraft qui s'était mis au ray tracing aussi.
Oui, bien sûr. Bah, et puis le vieux Quake aussi qu'on avait en ray tracing. Alors évidemment, ça ne sert à rien. Et en même temps, c'est rigolo parce que c'est quand même assez joli. Ça fait des effets assez sympas. Et puis, bah, une fois que tu t'es pas en train de diviser par 4 les performances de ton jeu, ça devient intéressant. C'était le problème de la première génération et les premières façons de coder tout ça, c'est que ça ralentissait tellement les jeux qu'on s'en foutait un petit peu, puisque tu préférais quand même jouer avec un taux d'affichage par seconde qui était intéressant, plutôt que de voir des réflexions jolies dans les flaques d'eau et que ton jeu se mette à ramer horriblement.
Allez, on continue dans la tech avec OnePlus Nord. C'est quoi donc ça?
Ça, c'est un nouveau téléphone, monsieur.
D'accord.
OnePlus, tu connais OnePlus, la marque
OnePlus.
Oui, qui en fait fait grincer des dents avec sa nouvelle gamme, puisqu'ils sont vraiment en train d'essayer d'aller chercher non plus les flagship killers, mais les gros téléphones qui font papa, maman, mais un tarif assez élevé, alors que historiquement, OnePlus, c'est les gens qui te sortent le téléphone, qui va chatouiller les gros noms et les téléphones, ce qu'on appelle vraiment les flagships, les trucs à 1000 balles maintenant, tu vois, et en se disant, oui, mais nous, regardez, on est à 400. Bon, sauf que le dernier téléphone, c'était plutôt, regardez, on est que à 800. Ah oui, mais c'était pas le deal, mon gars, on s'était pas compris, là. Donc, il y a une nouvelle version milieu de gamme qui sort, qui est le OnePlus Nord, qui est un téléphone avec un écran de 6,44 pouces à 90 Hz, et qui lui va coûter 400 €. Et donc là, on rentre dans un truc qui est une bonne nouvelle, puisque t'as, pour ce prix-là, t'as un écran AMOLED qui est en 2400 par 1080, donc toujours à 90 Hz, comme je le disais, avec une surcouche Android qui est très légère chez OnePlus, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils ont mis le dernier, enfin, c'est pas le dernier, mais c'est du Corning Gorilla 5, donc c'est déjà assez solide, mais c'est pas la dernière version. Et un capteur d'empreinte qui est placé sous l'écran, ce qui est un classique sur Android maintenant. Et c'est du Snapdragon 765 5G, avec 8 ou 12 gigas de mémoire. C'est une semi-bonne nouvelle, parce qu'en termes de perf, t'as pas le top du top, mais pour les trois quarts des gens, ça va suffire. Donc voilà, je voulais vous dire que c'était dispo, puisque je sais que c'est une gamme où on attend souvent les gars de chez OnePlus, et c'est le sweet spot dans le marché Android, tu vois. En revanche, il y a pas mal de tests qui vont sortir, qui vont le comparer, à mon avis, assez positivement avec le nouveau Pixel 4a, qui doit être dispo, ou qui va être dispo, de chez Google, et il faudra voir aussi, si vous êtes plutôt iOS, comment il se comporte, comment ça se compare par rapport à un iPhone SE, qui est à peu près dans la même gamme de prix, mais qui a un plus petit écran, par exemple. Donc, c'est un avantage pour certains. certains, des avantages pour d'autres. Donc voilà, ça c'est dispo et j'ai une petite brève que je vous ai linkée chez Next Impact.
Et puis tu voulais nous parler d'une pub iPhone.
Ouais, alors ça m'a fait marrer, on reste dans le téléphone, parce que Apple parle beaucoup de la vie privée, mais c'est la première fois qu'ils font une pub vidéo, donc une pub destinée à la télé aux États-Unis, qui est en fait basée sur la défense de la vie privée. Je vous ai linké la publicité directement sur YouTube, dans le lien du billet qui accompagne le podcast. C'est assez rigolo, parce qu'en fait, c'est des gens qui passent à côté d'autres personnes en criant genre leur numéro de carte de crédit, la dernière application qu'ils ont installée, etc., etc. Évidemment, ça met en lumière, ils tournent un petit peu en dérision, le côté password d'Android qui, évidemment, en termes d'applications, il y a pas mal d'applications. Il y a des scandales toutes les semaines où telle ou telle app, on s'aperçoit que ça a aspiré votre carnet d'adresse et ça l'envoie à des gens qui sont très contents de le récupérer et de le revendre derrière. Donc, ce sont des choses qui sont connues et en même temps pas forcément aussi vraies. Alors, c'est les rois de la vie privée chez Apple, mais même chez Google, dont c'est le marché hein, de vendre vos données. Hein, c'est, quand je vous rappelle, hein, la grande maxime, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ils essayent quand même de mettre des barrières en disant oui, mais bon, c'est pas grave, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc chez Apple, eux, ils verrouillent tellement le truc que même Facebook, je sais pas si t'as vu passer la news,
mais ils sont
pas très contents parce qu'ils se disent putain, la prochaine version de Facebook sur iOS 14, on va pas pouvoir moissonner les données comme d'habitude.
Et non.
Comment on va faire pour vendre nos publicités dans Instagram, dans Facebook, dans machin, dans WhatsApp quoi.
Et donc, on te regarde, Marc.
Voilà, donc voilà, c'est un petit peu, c'est plus cher et en même temps, ils veulent justement, en plus du premium, de la qualité luxe du produit, mettre en avant genre, hey, t'as les moyens de défendre ta vie privée, mais bon. Mm-hmm. Forcément, c'est un peu plus cher, pardon. Donc voilà, à voir, la pub est rigolote et on suivra avec iOS 14 et la nouvelle génération de produits qui va arriver, à quel point ils tiennent leurs engagements.
Et puis tu voulais terminer avec un objectif photo pour téléphone portable qui est sous l'écran.
Voilà, ça c'est un truc qui va potentiellement faire chier Apple justement, parce que ça c'est le genre de truc qu'ils aiment. Ça, ils aiment pas forcément être les premiers, mais parce que eux ils préfèrent le faire mieux entre guillemets. Mmh. Quand ils sont pas les premiers, c'est comme ça qu'ils le présentent. Mais là pour le coup c'est l'entreprise chinoise ZTE qui annonce et présente pour couper l'herbe sous le pied de Xiaomi qui en avait aussi parlé. Le premier objectif en fait frontal pour smartphone qui est complètement planqué sous l'écran et donc complètement invisible. Ouais, génial, plus de trous dans votre écran, on est super content. Donc la news d'Ars Technica parle un petit peu de la promesse et oui, ça va être génial et certainement que vous allez le retrouver dans quasiment tous les téléphones Android d'ici 2 ans si ça fonctionne pas trop mal. Le problème c'est qu'on est en pleine pandémie de notre ami Covid bidule qui commence à bien nous saouler, mais du coup personne n'a pu faire de présentation et voir le truc sur place, tu vois, donc là il faut se contenter de présentations et de photos de ZTE qui fait ce qu'il peut pour montrer le truc, mais s'il voulait cacher quelque chose, ça serait quand même plus facile que quand tu as le téléphone sous le nez. Donc toujours prendre des pincettes dans ce genre de cas et puis ne pas trop s'enflammer. En tout cas eux, ça y est, là c'est officiel, c'est pas de la rumeur et tout, et ils ont balancé le truc, donc maintenant il y a plus qu'à voir ce que ça donne réellement. Si vous voulez comprendre la technique et la technologie derrière plutôt cette petite prouesse, le papier de Ars Technica fait bien le taf, il link d'ailleurs vers d'autres choses qui sont un peu plus complètes et puis il conclut vers effectivement une petite problématique qu'on va avoir, c'est que si ça marche très bien, ça va être super cool. Ça veut dire que bientôt, on pourra avoir des caméras derrière n'importe quel type d'écran qui pourront filmer sans qu'on soit au courant. Ça va être génial! C'est le futur qu'on voulait tous, évidemment. On parlait de vie privée il y a 2 secondes. Voilà. Puis je vous rappelle que comme il y a des gens comme Samsung et compagnie qui développent des technologies pour vous afficher de la pub que quand vous êtes vraiment devant la télé et vraiment concentré, par exemple, et qui ne fait pas payer le même tarif pour les pubs qui, vous êtes parti pisser, du coup, ce n'est pas très intéressant pour le publicitaire. Voilà, des belles technologies d'avenir pour la télévision, c'est vraiment les avancées qu'on attendait. Je ne sais pas, ça marchera certainement pas. On verra. Je m'attends à tout maintenant. Je ne dis plus rien, on est en 2020. Hein. Donc, ça sera intéressant de suivre tout ça, mais c'est une technologie qui, il y a toujours un côté positif et puis un côté qui peut être potentiellement assez négatif. On verra bien ce que ça donne.
Et Et c'est la fin de ce 144e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, vendredi 8h, et puis plutôt le jeudi soir pour les abonnés Patreon, donc.
Oui, bonjour les abonnés Patreon, on vous aime. J'espère que vous passez une bonne soirée et que vous avez aimé nos news. Venez énerver tout le monde. Vous pouvez pas commenter sur le forum car le thread n'existe pas, mais vous pouvez nous écrire sur Patreon, comme ça, ça... on le lira aussi.
Il se passera quelque chose.
Oui, et puis effectivement, on n'est pas très efficace là-dessus, mais vous pouvez nous insulter sur les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs, à ce propos.
Allez, à la semaine prochaine, bon week-end, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.